Le journal sur France Inter, Charlotte Piret, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Fournaise, chaleur intense, on ne sait plus comment qualifier cette journée. 20 départements en alerte rouge, plus de 40 degrés attendus dans le nord-est et les rues de la capitale. C'est aujourd'hui l'un des jours les plus chauds de cet épisode de canicule. Dans l'actualité du jour également, les passoires énergétiques, ces logements mal isolés dans le collimateur des sénateurs. Où est Steve, le déploiement d'un sonar venu de Paris pour tenter de retrouver le jeune homme disparu à Nantes. Chiffre d'affaires en hausse, mais bénéfices en chute libre, la faute à l'amende record infligée à Facebook pour non-respect de la vie privée, fermeture de portes anticipée à l'usine Ford de Blanquefort, les Alpes de tous les dangers pour le maillot jaune Julian Alaphilippe dans le Tour de France, la page culturelle avec à 8h20 votre invité Frédéric, vous recevez Enki Bilal.
Oui Charlotte, Enki Bilal, le grand auteur de bande dessinée, invité du grand entretien de la matinale. Il publie Bug chez Casterman. En 2041, le monde est paralysé par la disparition de toutes les données informatiques, notre dépendance au numérique, la géopolitique, le multiculturalisme, Bug aborde toutes ces thématiques. Allons-nous vers la fin de la science-fiction? Vos questions à Enki Bilal sur franceinter.fr et au 01 45 24 7000.
Et puis le Da Vinci Code sur grand écran dans la cour du musée du Louvre, une expérience unique que France Inter vous fait partager à la fin de ce journal.
France Inter.
On y est, c'est aujourd'hui que tous les records tombent, ou presque. 20 départements en vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. 26 degrés à Paris, 29 à Bordeaux, 24 à Toulouse, dès 5h du matin, inédit là encore, et 42 degrés attendus aujourd'hui dans les rues de la capitale. Alors pour éviter la fournaise, gouvernement, RATP, SNCF, tous appellent à limiter ou reporter ces déplacements. Simon Cardona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la gare Saint-Lazare. Vous croisez malgré tout des voyageurs ce matin.
Oui, mais pour l'instant, pour ces voyageurs, tout se passe bien. Tout simplement parce que c'est difficile de faire autrement quand on ne peut pas prendre la voiture, m'a dit Thierry en sortant du train.
Je travaille, donc je suis bien obligé d'aller au boulot.
Et ce travailleur qui vient d'Argenteuil s'attendait à pire même ce matin.
Même si c'était pas les nouveaux trains, ils étaient moins climatisés, mais bon, ça va encore ce matin.
En fait, les voyageurs sont plutôt optimistes. Séverine se presse dans les couloirs de la gare pour prendre son métro, une bouteille à la main, une autre dans le sac. Elle n'a pas tenu compte des messages de la RATP ou de la SNCF.
Bah, ils prennent des précautions par rapport aux gens fragiles, c'est normal, mais on peut pas toujours décaler les voyages.
Mais vous, par exemple, vous vous sentez concerné par cette vague de canicule, ou vous dites que ça devrait aller?
Moi, je sais que je la supporterai. Après, je sais qu'il y a des personnes fragiles pour lesquelles ça risque d'être compliqué, voire fatal.
Même discours chez Alexandre, qui ne se sent pas vraiment concerné. Le jeune homme s'est même habitué à la canicule. Pas de quoi en faire un plat.
Non, pas du tout, au contraire. Enfin, pas de préconisation particulière. C'est un jour normal.
Voilà, un jour normal donc pour tous ces voyageurs gare Saint-Lazare qui ont peut-être peu dormi cette nuit, mais qui n'ont pas vraiment connu de difficultés particulières dans les transiliens, les RER ou les métros ce matin.
Merci Simon Cardona en direct de la gare Saint-Lazare avec les moyens techniques de Laurent Lucas en gare de Paris-Est. Cette fois, toujours des perturbations après l'incendie d'un transformateur électrique à Noisy-le-Sec hier, transformateur qui alimente notamment la gare de Paris-Est. Panneau canicule appelle donc à limiter tous vos déplacements. Et puis, autre recommandation, vous les avez moult fois entendus, mais pas forcément appliqués, s'hydrater, rester au frais, éviter tout effort physique, même si vous êtes jeune et en bonne santé, car le coup de chaud n'est pas une affaire d'âge, en témoigne le docteur Daniel Meyran, conseiller national à la Croix-Rouge française, joint par Sandy Dauphin.
Le coup de chaleur peut être soit le coup de chaleur d'exercice, ça peut arriver à n'importe quel âge, et ça arrive plutôt d'ailleurs à des sujets jeunes qui font des exercices, notamment les militaires connaissent bien ça, puisque c'est une des conséquences des exercices en plein soleil, donc ils y font très attention. Ça va entraîner une élévation de sa température, une décompensation de son système de régulation de température, qui va donc à une détresse vitale, dont l'évolution peut être mortelle. Donc ça, c'est une des premières causes. Et ensuite, vous avez le coup de chaleur que l'on voit plutôt chez les enfants, les personnes âgées, qui sont exposées pendant plusieurs heures, notamment la nuit, à des fortes températures. Et enfin, troisièmement, vous avez toutes les personnes qui sont âgées ou qui ont des maladies qui peuvent être décompensées par cette exposition prolongée à des températures élevées et surtout si on ne s'hydrate pas suffisamment.
Et la vague de chaleur ne s'arrête pas aux frontières. En Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, les records de température tombent partout. C'est toute l'Europe occidentale qui suffoque et même plus au nord encore, dans le cercle arctique, en Alaska, au Groenland, en Sibérie. Les températures particulièrement élevées cet été sont à l'origine de feux de forêt intenses, une centaine depuis le mois de juin, avec on s'en doute de graves conséquences sur le réchauffement climatique. Capucine Jaffet.
De gigantesques fumées noires, c'est ce que les satellites ont réussi à capter de ces feux de forêt. Difficile de savoir si ces incendies sont dus au réchauffement climatique, mais cela pourrait se reproduire à l'avenir. Mark Parrington est scientifique au Centre européen de prévision météorologique à moyen terme.
On sait que le climat dans l'Arctique augmente de manière plus rapide que dans le reste du monde. Si ça continue, à l'avenir, la région deviendra plus chaude et plus sèche et ces incendies se multiplieront.
Une multiplication de ces incendies pourrait avoir de lourdes conséquences, selon Mark Parrington.
L'inquiétude avec ces feux, qui sont très proches de la banquise, c'est que la glace pourrait noircir avec le dépôt du carbone. Et ça pourrait provoquer une fonte plus rapide de la banquise. Et puis la fumée est très dense, donc il y aura sûrement un impact sur la qualité de l'air, et peut-être même loin de là où les feux brûlent.
Depuis juin, les feux ont émis 50 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions totales à l'année d'un pays comme la Suède.
Avoir moins chaud implique souvent d'avoir un logement bien isolé, et c'est loin, très loin même d'être le cas pour tout le monde. 7 millions de logements sont ainsi notés au plus bas F ou G dans les diagnostics de performance énergétique. C'est près de la moitié du parc locatif privé, ce qu'on a appelé les passoires énergétiques, au cœur de la loi énergie-climat examinée aujourd'hui en commission mixte paritaire. Une mesure qui a fait l'objet de plusieurs amendements, fixant notamment un seuil de consommation d'énergie au-delà duquel un logement pourrait être considéré comme indécent à partir de janvier 2023. Le gouvernement et la droite sont contre, ils parlent d'un risque de pénaliser le marché immobilier. Mais pour l'ancienne ministre du Logement, la sénatrice proche des Insoumis, Marie-Noëlle Lienemann, il est grand temps de passer à l'action.
Nous avons proposé que soit on ait une obligation immédiate de baisse des loyers qui obligera le propriétaire, soit d'aller même plus loin en disant, à partir de la date limite, tous ceux qui sont passoires thermiques sont considérés comme des logements indécents, c'est-à-dire qu'on ne peut plus correctement les mettre en location tant qu'on n'a pas fait les travaux.
À ceux qui vous répondent que vous renforcez l'écologie dite punitive, qu'est-ce que vous leur dites ?
Non, elle n'est pas punitive puisqu'il y a un accompagnement. Sinon, ça veut dire qu'on fait du punitif pour le locataire. Un propriétaire n'a absolument, a priori, aucun intérêt naturel à faire des travaux qui vont économiser l'énergie consommée par son locataire. On ne peut pas dire qu'il y a une obligation s'il n'y a pas de sanction quand on ne la fait pas. Ça ne s'appelle pas être punitif, ça s'appelle être juste.
Marie-Noëlle Lienemann avec Yaël Gauze.
France Inter, 8h07, le journal Charlotte Piret avec de nouveaux moyens déployés pour rechercher Steve, ce jeune homme disparu à Nantes.
Et pour peut-être apporter une réponse à cette question lancinante, où est Steve ? 3 mois inscrits sur les murs, les vitrines nantaises, mais pas seulement. 3 mots qui disent l'inquiétude sur le sort de ce jeune homme de 24 ans, disparu lors de la fête de la musique, qui disent la colère aussi et le sentiment de certains que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour le retrouver. Alors hier, le procureur en charge de l'enquête a tenu à préciser les recherches ne faiblissent pas et un sonar de la brigade fluviale de Paris va même commencer à sonder la Loire dès aujourd'hui. Florian Cazola.
Le procureur de la République de Nantes n'y est pas allé par 4 chemins. Les moyens mis en place sont colossaux et ça peu importe le prix. Sans donner de chiffres précis, Pierre Sénès parle de dizaines et de dizaines d'hommes sur le terrain tous les jours. Des plongeurs, bien sûr, mais aussi des patrouilles pédestres le long de la Loire. Dans les airs, un drone et un hélicoptère survolent régulièrement la zone. Épaulés ces derniers jours par le déploiement d'un avion de surveillance qui effectue des allers-retours entre Nantes et Saint-Nazaire. Et le dispositif est encore renforcé ce matin par l'arrivée d'une brigade fluviale de la préfecture de police de Paris. 4 hommes équipés d'un bateau et d'un sonar pour tenter de localiser au plus vite le corps de Steve.
Le gouverneur de Porto Rico poussé à la démission et un peu plus vite que prévu après plusieurs semaines de contestation suite à la publication de messages homophobes et misogynes que le gouverneur Ricardo Rossello échangeait avec ses conseillers. Il vient d'annoncer son départ pour le 2 août. Plus de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires, montant vertigineux rendu public par Facebook hier, le réseau social qui voit ses revenus augmenter de 28% en un an. Mais ses bénéfices, eux, sont en chute libre, moitié moins que l'année dernière pour cause d'amendes vertigineuse, elle aussi infligée par la Commission fédérale du commerce pour avoir trompé ses adeptes sur l'utilisation faite de leurs données personnelles. Une punition à 5 milliards de dollars et surtout au-delà des chiffres, des pratiques que Facebook va devoir changer. Loïc Piala.
Mark Zuckerberg voit du positif dans les nouvelles règles imposées par la FTC, la Commission fédérale du commerce. Il faut des régulations, autrement j'ai peur que la frustration vis-à-vis de notre industrie continue de grandir, a commenté le PDG de Facebook. Un PDG qui a dû accepter la mise en place au sein du conseil d'administration de sa firme d'un comité indépendant sur la protection de la vie privée. Il devra aussi signer chaque trimestre un rapport confirmant que Facebook respecte ses obligations fixées par l'accord. Sa signature l'engagera personnellement. Deux fois par an, la FTC aura aussi accès à une étude indépendante sur les pratiques du groupe en matière de vie privée, signe d'un contrôle renforcé du gouvernement américain. Parmi les autres mesures, ne plus se servir des numéros de téléphone des utilisateurs à des fins publicitaires ou crypter les mots de passe, rien qui n'empêche, selon les critiques de cet accord, la plateforme de collecter et de partager les informations personnelles de ses utilisateurs. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
L'Union européenne, décidément très peu pour lui. Le candidat Boris Johnson l'avait promis, le Brexit aura bien lieu au 31 octobre, accord ou pas. Le désormais Premier ministre le met en œuvre, à peine investi par la reine. C'est un gouvernement pour le moins eurosceptique qu'il a présenté. 17 départs et autant d'arrivées de ministres favorables à la sortie de l'Union européenne, principalement au poste clé du pouvoir.
Et on en reparle à 8h20 avec Anthony Bélanger dans Géopolitique. Il est 8h11 sur Inter. Cessation d'activité anticipée à l'usine Ford de Blanquefort.
C'est terminé, plus aucune boîte de vitesse ne sortira de cette usine ouverte en 1972. Une fin programmée, aboutissement d'un an de conflit social et l'annonce en février 2018 de la volonté du groupe Ford de fermer son site girondin. Fermeture annoncée donc, mais pour la semaine prochaine seulement. Alors hier, lorsque la direction a prévenu les salariés que c'était finalement là leurs dernières heures de travail, ce fut le choc et la tristesse. Marie-Jeanne Delépaule.
À la sortie de l'usine, les têtes sont baissées, les bras chargés de sacs. Bella, 51 un an, travaille comme opérateur de fabrication depuis 17 ans.
J'ai vidé mon placard, on a pris nos affaires et puis là on finit de vider les machines et voilà. Et après on rentre à la maison. Ça a été pour moi un choc psychologiquement. Là j'ai l'impression qu'on est jeté dehors comme des malpropres. Merci pour votre travail et puis voilà.
Bien sûr, tous savaient que la fin approchait, la production était déjà quasiment à l'arrêt. Mais normalement, le dernier jour, c'était la semaine prochaine. Jean-Pierre, 62 ans, n'était donc pas prêt à dire au revoir tout de suite.
Vous aviez une journée, vous deviez travailler jusqu'à la fin du mois. Et d'une heure à l'autre, on vous dit c'est fini, tu reviendras plus. Ça me fait mal. L'usine, c'était notre deuxième maison.
Lui va partir à la retraite. Près d'un tiers des 850 salariés sont dans son cas. Mais pour les autres, comme Frédéric, 52 ans, il faut désormais chercher un nouveau travail.
Les solutions, on n'en a pas. On a des annonces, on a des touches, mais la plupart, elles n'aboutissent à rien. On a postulé pour des boîtes autour de l'usine, parce qu'il y en a qui cherchaient. Mais ça n'a pas été mirobolant.
Et selon la direction, mi-juillet, 174 personnes avaient une solution de reclassement validée. Bella, par exemple, va suivre une formation pour devenir aide-soignante.
Peut-être les dernières heures aussi de l'entreprise Sonia Riquiel, l'avenir de la marque de mode sur un fil, suspendu à la décision du tribunal de commerce aujourd'hui. Et les chances d'échapper à la liquidation judiciaire sont très minces, eu égard à la seule offre de reprise jugée nébuleuse par les syndicats eux-mêmes.
Le Tour de France, c'est la bataille des Alpes aujourd'hui.
208 km entre Embrun et Valloire, l'étape de tous les si. Et si Julien Alaphilippe réussissait à déjouer les pronostics qui lui font perdre son maillot jaune au col du Galibier. Et si c'était plutôt l'autre Français, Thibaut Pinot, qui jouait les successeurs de Bernard Hinault. Ou si, autre scénario possible encore, le Gallois Geraint Thomas parvenait à conserver son titre. Bref, vous l'avez compris, l'heure est aux explications entre favoris de ces moments qui font la magie du Tour de France. Xavier Monferrand.
Le peloton a beau avoir emprunté la plaine de Waterloo lors du départ en Belgique, la grande bataille de ce tour, elle, aura bien lieu tout là-haut, dans les sommets des Alpes, et personne ne sait comment ça va se finir, surtout pas les premiers concernés comme le Colombien Egan Bernal.
Tout peut arriver, n'importe quel favori peut être à plat, n'importe quel favori peut sortir et faire péter tout le monde, on verra ce qui se passe.
Les Ineos, Egan Bernal et Geraint Thomas, le tenant du titre, ont une mission claire aujourd'hui, faire sauter Julien Alaphilippe, et le maillot jaune l'a bien compris.
C'est ce qu'ils ont à faire, hein. C'est, je pense, l'étape la plus difficile. S'ils font pas la course à bloc pour me faire péter, je comprends pas. Vu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils ont tout intérêt à le faire. Et ça sera à moi de répondre et de courir intelligemment et surtout avec les jambes.
Les jambes, elles, vont avoir mal, les corps vont souffrir, la chaleur, les kilomètres de dénivelé, le manque d'oxygène. Mais ça ne fait pas peur à Thibaut Pinot qui attend son heure.
J'ai un corps qui réagit pas à l'altitude et les indicateurs le montrent, j'ai aucun problème là-dessus. Donc pour moi, c'est même un avantage.
Et pour s'acclimater, le franc-comtois s'est offert quelques séances de sauna avant le tour. Ça pourrait bien lui être utile. Embrun, Xavier Monferrand, France Inter.
Départ d'Embrun donc pour cette 18e étape.
étape prévue à 11h, le Tour de France pour lequel une pétition demande la fin des hôtesses sur les podiums d'arrivée. Une information à retrouver sur franceinter.fr.
Et vous, Charlotte Piret, vous allez prendre un grand verre d'eau pour faire passer ce méchant chat dans la gorge. Il est 8h15, le temps.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Stéphanie Fromentin, c'est aujourd'hui le point d'orgue de la canicule.
20 départements du Nord sont toujours placés en vigilance rouge, 60 en vigilance orange. La situation est critique encore pour la journée. Les températures au réveil restent très élevées, 17 à 20 degrés sur les côtes de la Manche ainsi qu'en Bretagne, 20 à 23 partout ailleurs avec des pointes jusqu'à 26 en Île-de-France notamment. Cet après-midi, le mercure va flirter avec les 25-27 sur le littoral breton, 28 à 30 sur la façade atlantique. Mais il faut s'attendre à des valeurs partout supérieures à 35 degrés. Puis des pointes à 40-43 sur un bon quart nord-est du pays, sur le centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Il fera 26 degrés à Saint-Brieuc, 34 à Nantes, 38 à Valence, 41 à Beauvais, jusqu'à 43 à Melun.
Côté ciel, Stéphanie, c'est le calme avant les orages.
Effectivement, ce matin, hormis des poches de grisaille présentes sur la pointe bretonne, le golfe du Lion et le Pays Basque, le ciel est plutôt bien dégagé sur la façade est du pays, des Pyrénées jusqu'au Grand Est. En revanche, il est plus variable du Pays Basque vers les Charentes, des Pays de Loire vers la Normandie et la Bretagne. À la mi-journée, l'instabilité prend forme, des orages isolés éclateront sur la Normandie, le centre, le nord du Massif central, les Alpes et les Pyrénées. Des orages qui vont se décaler en début de soirée du côté du Gers, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, sur le bassin parisien. Les de France, la Bourgogne et le Jura, ce qui sonnera le glas de cette canicule étouffante partout ailleurs, sur le Grand Est, en vallée du Rhône, comme sur la Côte d'Azur, le soleil se montrera très, voire trop généreux.